Interview. 1. Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Se découpant sur champ d'azur, la ferme était fausse, bien sûr. Et le chaume servant de toit, synthétique comme il se doit. Au bout d'une allée de faux buis, on apercevait un faux puits, du fond duquel la vérité n'avait jamais dû remonter. Et la maîtresse de séant, dans un habit, ma foi, saillant, de fermière de comédie, à ma rencontre descendit. Et mon petit bouquet soudain parut terne dans ce jardin, près des massifs de fausses fleurs offrant les plus vives couleurs. Ayant foulé le faux gazon, je la suivis dans la maison où brillait sans se consumer un genre de feu sans fumée. Face au faux buffet Henri II, aligné sur les rayons de la bibliothèque en faux bois, faux bouquins achetés au poids. Faux aubussons, fausses armures, faux tableaux de maîtres au mur, fausses perles et faux bijoux, faux grains de beauté sur les joues, faux ongles au bout des menottes, piano jouant des fausses notes, avec des touches ne devant pas leur ivoire aux éléphants. Aux lueurs des fausses chandelles, en levant ses fausses dentelles, elle a dit, mais ce n'était pas sûr, tu es mon premier faux pas. Fausse vierge, fausse pudeur, fausse fièvre, simulateur, ces anges artificiels venus d'un faux septième ciel. La seule chose un peu sincère dans cette histoire de faussaire, et contre laquelle il ne faut peut-être pas s'inscrire en faux, c'est mon penchant pour elle et mon gros point du côté du poumon. Quand amoureuse, elle tomba d'un vrai marquis de Carabas. En l'occurrence, Cupidon se conduisit en faux jeton, en véritable faux témoin, et Vénus aussi néanmoins. Ce serait sans doute mentir, par omission de ne pas dire que je leur dois quand même une heure authentique de vrai bonheur.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter en podcast sur le site internet www.rdwa.fr et sur les ondes FM en 107.5. Aujourd'hui au studio, nous sommes en compagnie d'une partie de Au bois de nos cœurs avec Nicolas à la contrebasse.
Oui, bonjour.
Bonjour. Et Hervé à la guitare. Chant.
Bonjour Yves.
Alors tous les deux, vous êtes ici pour nous parler de votre tournée et puis de votre formation qui est en fait un trio, c'est-à-dire en la personne de Joseph qui est à la guitare et au chœur mais qui n'est pas là aujourd'hui, mais que vous retrouverez le public ou les auditeurs à quel moment ?
Eh bien à la sortie de notre résidence, parce que pour l'instant c'est un projet qui est en place, on a déjà fait quelques dates, notamment une dans la Drôme, mais c'est un projet qui est en cours de construction aussi, parce que plus que juste des reprises de chansons de Brassens, on veut faire un spectacle plus construit. Donc là, la semaine prochaine, on va faire une semaine de résidence pour construire vraiment un spectacle. Et on ne se précipite pas pour trouver des dates. On prend notre temps.
Cette résidence aura lieu où ?
Alors, ça sera à Villefranche, donc au nord de Lyon, dans le Beaujolais. Voilà, donc on va travailler avec les metteurs en scène sur la mise en place du spectacle. Mais en attendant, on joue quand même deux dates avant, puisqu'on joue ce week-end juste à côté.
Oui, c'est ça. Ça m'a induit en erreur, parce que c'était avec Joseph, mais en duo, effectivement, on joue ce soir et demain, tout à fait dans la région d'Iwa, puisque ce soir, c'est à Pennes-le-Sec, à l'auberge Le Domagnal, pour un dîner-spectacle. Et donc, vous avez les informations sur le site Le Domagnal. Et puis, demain, au Café des Lys, bien connu du Diwa, demain soir.
Tous trois, et particulièrement vous deux, vous êtes animés par une passion sur Brassens.
Et oui, et ça, depuis tous les trois, depuis notre plus jeune âge, moi je suis tombé amoureux. J'avais 12 ans, c'est mon frère qui a mis un disque de Brassens à la maison, et je suis resté scotché aux enceintes. Alors après, j'ai piqué le disque et je l'ai mis dans ma chambre où j'avais un petit poste pour l'écouter, et il a tourné en boucle pendant que je jouais au capla.
C'est connu que les partitions de Brassens, et particulièrement la guitare, étaient très pointues au niveau des accords.
Alors pour les accords, là, moi je me suis mis à la guitare pour Brassens, parce que depuis mes 12 ans, je chante Brassens à tue-tête dans la rue, sur les quais, parce que je suis plutôt d'origine de Lyon. C'est assez tardivement que je me suis mis à la guitare, vers 16-17 ans, quand ça me suffisait plus de chanter Brassens seulement, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de faire avec la guitare. Et il se trouve qu'il a cet avantage, Brassens, d'avoir une grande palette pour progresser. Parce qu'il y a des chansons avec deux accords, typiquement le gorille, c'est ré, la, ré, la, ré. Donc c'est idéal pour commencer la guitare, mais c'est idéal aussi pour continuer à progresser au niveau de la guitare accompagnement, parce que entre le gorille et puis une chanson comme Fernande, il y a 14 accords sur Fernande. Donc il y a une grande, grande marge de progression.
Nicolas, pareil, la même impression vis-à-vis de Brassens et cette passion aussi ?
Une passion d'enfance, ouais, exactement, ouais, pareil. J'écoutais ça, l'enfance, le lycée à fond. Et puis, c'est marrant parce que j'avais jamais imaginé pouvoir travailler, puisque c'est notre métier tous les deux, on fait que de la musique. Alors avec diverses formations, hein, pas que celle-là évidemment, parce que celle-là elle est assez récente. Mais travailler en jouant du Brassens, ça nous a semblé, après notre premier concert, c'est une des premières choses qu'on s'est dit, c'est « Ouais, vous rendez compte, notre métier, c'est jouer Brassens, quoi. » Enfin, ça en fait partie. Du coup, c'est assez fou, quoi. Voilà.
Contre tout, vous vous êtes intéressé à Brassens, mais l'univers musical, en général, vous avez aussi quelques coups de cœur, par exemple ?
Ouais, je suis un peu lent à la détente, mais je veux revenir sur ce que tu disais par rapport à la guitare. Pour ma part, le fait d'avoir chanté Brassens avant de faire de la guitare et ensuite d'avoir joué de la guitare, j'ai redécouvert les chansons de Brassens parce que je connaissais déjà le texte, la mélodie, mais les harmonisations de Brassens, elles sont complètement folles. Et du coup, à chaque chanson quasiment, que je chantais depuis longtemps, j'ai dit « Waouh ! Mais qu'est-ce que c'est que cette orfèvrerie ?» C'est vraiment... À tous les étages, en fait, Brassens, c'est de l'orfèvrerie, c'est pour
du
ça.
Du coup, ça fait le lien avec ta question, qui était est-ce qu'on a d'autres esthétiques musicales, en gros, si j'ai bien compris.
Ouais.
Ben, en fait, clairement, moi, j'ai une formation de classique et de jazz à la contrebasse. Et donc, je joue vraiment des styles très différents, du jazz, du classique, même de la musique baroque. De la musique du monde, enfin tout ça. Mais du coup, dans Brassens, clairement pour moi, ça fonctionne en grille, un peu comme des grilles de jazz. Et c'est effectivement, selon les morceaux, ça peut vraiment se rapprocher de ça. Dans notre spectacle, à un moment, on a des petits solos, ce genre de choses. Donc en fait, c'est pas que de la chanson. Accompagné, il y a vraiment un aspect un peu jazz parfois, même si rythmiquement ça se ressent pas à ce point-là, mais bah, harmoniquement, si. Ouais.
Histoire de faussaire, celle que vous venez d'entendre, elle est hyper jazzy. Dans le... Alors. C'est la composition qui veut ça, mais ouais. Il y a de la place, en tout cas. Mais c'est pas pour rien qu'il y a un disque qui est sorti avec des jazzman où y a des jazzman, tout un jazz band qui reprend Brassens. C'est parce que c'est tellement bien construit que les Brassens, qui lui, était lui-même un grand, grand, grand fan de jazz, il avait ça dans le cœur, dans le corps... Même dans une de ses interviews, il dit que s'il pouvait faire seulement le contretemps à la guitare, ça lui irait mieux, mais que pour contenter tout son public, il fait des arpèges de temps en temps, mais que c'est vraiment pas ce qu'il préfère. En tout cas, oui, il y a un espace énorme pour l'improvisation. Et pour mes influences personnelles de musicien, je fais à côté de la musique médiévale, dans un trio qui est du Diwa aussi, qui s'appelle Vagarem. Et ça, c'est l'essentiel de mon activité de musicien professionnel. Et puis, j'étudie la musique classique et sacrée de l'Inde du Nord, le Drupad. Donc, ça n'a pas un grand rapport avec Brassens.
Toi-même, Hervé, ta formation, pareil, le jazz, le classique ?
Ma formation, bah, elle est un peu de naissance parce que mon père est directeur de l'école de musique. Sinon, je suis arrivé comme professionnel de la musique très tard. Parce que j'étais boulanger. J'étais boulanger pendant quasiment 14 ans. Là, ça fait 2 ans que je vis de la musique. Ma formation, elle est donc plutôt pédagogique. Parce que j'ai passé un diplôme Willems, diplôme d'éducation musicale, avec une méthode active que je recommande chaleureusement à tous nos auditeurs. Finalement, c'est l'essentiel de ma formation, ça.
Est-ce que vous deux, ou voire même vous trois, envisagez de composer ou créer des chansons ?
Ben, sans doute, puisque moi, pour ma part, je le fais ailleurs, mais dans d'autres projets. Je sais que Joseph aussi, puisque le guitariste qui est pas là aujourd'hui, j'ai un groupe avec lui de musique argentine et dans lequel on compose aussi dans l'esthétique de musique argentine, voilà, du nord de l'Argentine précisément. Mais pour Brassens, je crois pas, puisque l'objectif de ce spectacle, c'est de rejouer ces morceaux-là et de les remettre d'une façon assez classique, en fait, enfin, comme lui le faisait. Parce qu'il existe déjà plein de groupes, finalement, il y a Brassens Not Dead, des trucs comme ça, où ils le font en punk, c'est cool, mais du coup, nous, on s'est dit, non, on fait comme on l'aime, et puis voilà. Après, dans ce groupe-là, je crois pas qu'il y ait pas projet de composer, du coup.
C'était dans l'idée, quand j'écoutais Hervé, de découvrir sa musique en l'interprétant. Est-ce que, par extrapolation, il y aurait des sonorités qui vous diraient « ça serait beau »
Ben, il y a... Pour ma part, c'est dans un coin de ma tête, la composition, mais à vrai dire... Je suis très intimidé par le maître, presque un peu inhibé. Et du coup, même si je compose des petites mélodies comme ça, je ne me suis jamais vraiment essayé sérieusement à l'écriture. Et à chaque fois que je l'ai fait, j'ai trouvé ça pas suffisamment intéressant pour persévérer. Et il y a un copain à moi, une fois, il m'a dit « Mais Brassens, il a tué la chanson française. Qu'est-ce que tu veux faire après lui ?» Alors, mais quelque part, moi je le comprends dans mon vécu où effectivement, après avoir vécu de l'intérieur, apprécié une œuvre de cette qualité, waouh, faut s'accrocher hein, derrière pour oser prendre sa plume et puis pondre quelque chose. Mais j'admire beaucoup ceux qui le font.
Il y a un instrument qui manque, je ne sais pas si je ne connais pas Brassens dans sa globalité, mais existe-t-il des compositions avec batterie ou d'accompagnement rythmique ?
De Brassens ?
Oui.
Non. Il a fait une composition. Alors, c'était sur Éloge à un rat de cave, quelque chose comme ça, où il fait avec un jazz band, mais c'est vraiment une exception.
Faut que tu me fasses écouter ça. Ouais. J'étais pas au courant. Je découvre des trucs.
C'est sur notre Facebook, vous pouvez voir.
Ok.
Elle y est.
Voilà, ça c'est dit. Pour faire du Brassens ou jouer du Brassens, faut-il vivre comme Brassens ?
Oh bah, de toute façon, c'est difficile parce qu'on n'est pas à la même époque.
Non, mais je vois la question. Mais...
Oui, mais chaque époque, bon, il y a ses contraintes. Et puis,
qu'est-ce que tu entends par là ?
En contrepartie, liberté. Bah, par rapport à l'inspiration, de la musique, des paroles. Est-ce que c'est un retour de sa vie qui se transforme en musique ?
Moi, je crois que je comprends. En fait, l'idée, c'est est-ce qu'il faut être aussi libre ou anarchiste, je sais pas. Je sais pas s'il était vraiment anarchiste d'ailleurs, mais que Brassens. Bon, déjà, on fume pas. Bon, voilà. Donc, on n'a pas pris le.
On oublie la pipe.
Voilà. Mais pour le reste, on est quoi ? On est quand même assez. C'est quand même assez libre, je pense, d'esprit et de. Politiquement, je crois qu'on est quand même assez. On est même très en accord avec lui. Et puis, voilà. Ouais, moi, je me reconnais quand même dans. Dans ce genre de parcours de vie, quoi. Ouais, clairement. Après
dans le chemin philosophique, en tout cas, oui. Pour moi, ça me paraît difficile d'interpréter entièrement son œuvre sans adhérer à sa philosophie. Ça me paraît vraiment compliqué, quoi. Mais ce que j'apprécie dans son œuvre, et je dis bien son œuvre plutôt que telle ou telle chanson, c'est précisément que on peut observer un cheminement et une avancée dans sa pensée entre les chansons rigolotes qui peuvent être prises comme des attaques au clergé ou au pédéraste, etc. Et puis qui sont assez systématiquement contrecarrés par d'autres chansons qui disent non, c'est pas contre les gens que j'en ai, c'est contre un système de pensée et contre une systémisation de la pensée.
C'est pas systématisation.
C'est ça. Par exemple, il insulte les gendarmes ouvertement dans Hécatombe où il dit quand même qu'ils n'ont pas de coucougnettes parce qu'ils ont voulu les couper mais qu'ils n'en avaient pas, et puis derrière il fait une chanson où il y a un gendarme qui vient le couvrir avec sa pèlerine et il dit que plus jamais il a pu crier mort aux vaches.
Il suffit d'un pour changer la vie.
Ouais, c'est ça, mais c'est vraiment ce qui me touche. C'est qui fait vraiment la différence entre l'individu et le groupe auquel il appartient. C'est que il crache sur la religion, et ça, il s'en est jamais caché, mais pas sur les religieux. Il crache sur les forces de l'ordre dans le système, mais pas sur le gendarme en particulier. Il fait la différence entre les mains.
J'ai une petite question, Hervé. C'est quoi une pèlerine ?
La pèlerine, c'est un manteau.
Ok, merci. Parce que si je sais pas, je pense que je suis pas le seul.
Tout à l'heure, tu parlais de pédéraste.
Ah, il fait un néologisme. Il fait un néologisme dans la chanson Les trompettes de la renommée.
Oui.
Et il dit... Sonnerait-elle plus fort ces divines trompettes si, comme tout à chacun, j'étais un peu tapette, si je me déhanchais comme une demoiselle et prenais tout à coup des allures de gazelle. Mais je ne sache pas que ça profite à ces drôles de jouer le jeu de l'amour en inversant les rôles, que ça confère à leur gloire une once de plus-value, que ça, le crime pédérastique, aujourd'hui, ne paie plus. Donc il fait un néologisme avec pédéraste. Mais... Et d'ailleurs, c'est intéressant, parce que le crime pédérastique, il dit que c'est un crime, mais pas parce qu'il pense que c'est une immondice, parce que à l'heure où il écrit cette chanson, c'est un crime d'être homosexuel, encore dans la loi.
Sur son côté libertaire, je dirais, il y avait quand même l'esprit de son époque.
Est-ce qu'il était homophobe, tu veux dire?
Non, je ne dis pas ça.
Je veux dire, par le poids de l'époque, qu'il...
Oui,
je pense qu'il était moins... Je pense qu'il était un peu moins ouvert dans ses propos que pourrait l'être un artiste d'aujourd'hui. Enfin, il me semble que des fois, c'est un peu, tu vois, même dans sa tournure de phrase, c'est... Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est quand même... C'est un peu comme, tu vois, Aznavour qui vient de mourir, là, comme ils disent. Cette chanson est vieille et c'est caricatural. C'est... Mais c'est, ça se veut être une défense de l'homosexualité. Je pense que dans cette phrase de Brassens sur les trompettes de la renommée, là, ça se veut être une défense, en fait, aussi. En disant, j'ai pas besoin de le faire parce que ça m'apportera rien. Enfin, voilà. Mais il les défend aussi. Mais effectivement, c'est une tournure qui paraît aujourd'hui assez vieillotte. Enfin, je trouve. Mais comme ils disent d'Aznavour, je pense que tu vois. Pareil. Enfin, voilà, c'est sa caricature, le gars qui se travestit, tout ça. Comme s'il fallait se travestir pour. Voilà. Mmh. Bon. Mais oui, effectivement, ils sont dans leur époque, les gars. Je pense que si aujourd'hui ils étaient là, ils évolueraient avec leur époque dans les idées les plus progressistes possibles. Je crois qu'ils sont progressistes au max de ce qu'ils peuvent pour leur époque. C'est mon opinion, mais je sais pas.
Ouais, ouais.
Tous deux, vous vivez dans la Drôme?
Moi, oui. Nicolas, non.
Non, pas du tout. Moi, je suis originaire du sud de la France, là, vers Marseille, mais j'habite en Bourgogne. Voilà, dans le Mâconnais, quoi.
Et Hervé, pareil, donc à Aurel. Dans le Diois.
Voilà, à Aurel.
À Aurel.
Donc, c'est les portes du Diois.
Juste à côté. Comment vous êtes-vous rencontrés? En tant que trio, d'ailleurs.
Eh ben, par le guitariste le qui brille par son absence, par Joseph, parce que bah, il se trouve que le guitariste en question, Joseph, on s'est rencontré dans un train entre Villefranche et Lyon il y a maintenant quasiment une dizaine d'années. Ouais, c'est ça. Où j'avais ma petite guitare trois quarts. Que je trimballais partout et jouais dans un compartiment, et il est venu attiré par son oreille, en bon fan de Brassens, il a reconnu tout de suite. Lui, il fait de la musique sud-américaine, donc il avait son charango, et on a buffé Brassens donc dans ce train là charango, guitare, voix. C'était la supplique pour être enterré à la plage de Sète qu'on avait chanté. Et on s'est retrouvé à l'ENM où Joseph est professeur de musique sud-américaine aujourd'hui, 7 ans après, ouais, c'est ça.
Ça.
7 ans après, il a été mon professeur pendant un an de musique sud-américaine. Et puis, quand je suis parti de l'ENM, ça fait le pont avec ta question sur ma formation. J'ai fait un petit passage de l'ENM, mais tellement court que j'ai oublié d'en parler. Quand je suis parti de l'ENM, je lui ai proposé de faire un trio, mais je connaissais pas encore Nicolas. Et Joseph travaillait déjà avec Nicolas pour un trio de musique sud-américaine, Creojando, qu'il dirige. Et donc, il m'a dit, « Hey, mais moi, j'en ai un sous la main de contrebassiste hyper compétent. Je vais lui demander si il aime Brassens. » Et la réponse a été oui,
oui,
évidemment. Voilà le lien.
Voilà.
Nicolas, c'est Brassens qui t'a fait découvrir la contrebasse ?
Non, c'est une bonne question. Ça aurait pu, parce que du coup, c'est vraiment une des premières musiques, un peu comme toi, Hervé, que j'ai écouté un peu en solo, quoi. Mais moi, la contrebasse, c'est un truc un peu pas magique, mais j'étais en maternelle, tu vois. Donc, il y a un gars qui est le prof que j'ai eu dans le sud de la France, là, qui est venu, qui nous a joué des morceaux de classiques, hein, et ça vibrait. On était tous assis par terre, et ça vibrait au sol avec la pique qui transmet des basses sur du parquet. Et du coup, je sentais tout ce truc vibrer et je suis rentré chez moi. Je voulais faire du saxophone aussi, hein, j'avoue. Mais du coup, je suis rentré chez moi, j'ai dit, waouh, je veux faire ça. Enfin, ou du saxophone. Et finalement, j'ai fait ça. Voilà. Donc, j'ai commencé très tôt sur des petites contrebasses qui font la taille des chaises, tu vois. Voilà.
Et ta contrebasse, elle m'apparaît très âgée. Tu peux dire son âge?
Alors, je suis très honoré que ce soit sa première sortie officielle, c'est chez toi, puisqu'en fait, je viens de l'acheter. Je suis allé l'acheter en Italie, là, vers Naples. Et c'est une contrebasse de 1880 à peu près. Ouais, donc c'est une très belle basse. Moi, d'habitude, j'en ai une autre, voilà, qui était plus moderne, mais de bonne qualité, mais d'étude, une contrebasse chinoise, voilà. Et là, je me suis acheté un instrument Voilà, un bel instrument. Et voilà, c'est sa première sortie hors de répète aujourd'hui. Donc c'est bien. Enfin, avec moi, puisqu'elle en a vu. Hein. Elle a vu passer des types depuis 1880. Voilà. Apparemment, elle a été fabriquée en Allemagne. Donc elle a dû jouer, j'imagine, en Allemagne. Puis ensuite, elle est allée en Italie avec un grand jazzman qui s'appelle. Ça va me revenir, mais qui joue avec Paolo Fresu, ce genre de gars, tu vois. Donc Marco Dettila, pardon, le contrebassiste. Donc tu vois, elle a fait du jazz à haut niveau en Italie. Puis maintenant, elle se retrouve à faire du Brassens dans la Drôme. Donc tout va bien.
On sent bien son vécu, hein. Elle a le bois qui est boursouflé, ouais. Gondolé.
Ouais, les petites, ouais.
Mais ça lui enlève en rien sa sonorité.
Non, absolument, hein. Ça sonne super bien. Ouais. Et encore là, c'est du Piz. Mais à l'archer, ça se voit qu'elle a été conçue pour ça, mais à l'archer, c'est assez impressionnant. Elle est très volumineuse. Ouais.
Tu en joues de l'archer ?
Oui, puisque j'ai une formation classique. Du coup, j'en joue, mais j'en joue pas professionnellement en classique, parce que c'est pas ce qui m'intéresse, et puis que les concours d'orchestre sont de niveau internationaux que j'ai pas. Mais je joue de la musique baroque, en revanche, avec un archer différent, sur des cordes en boyau, sur une autre contrebasse. Voilà. Et donc ça, c'est une autre esthétique que j'aime beaucoup.
Il n'y a jamais eu d'archer dans les chansons de Brassens en contrebasse.
Si, bien sûr,
bien
sûr.
En tête.
On en joue, bien sûr. Oui, il y a Saturne,
Les Passantes. Il a immortalisé cette version, Les Passantes. Pierre-Nicolas, je cite Brassens, il a été touché par la grâce. Et il a des phrases tellement magnifiques que Nicolas Canavaggia, ici présent, il en a repiqué quelques-unes. Si vous venez ce soir ou demain,
on les jouera ce soir,
vous pourrez apprécier les petites phrases. Par
rapport aux paroles de Brassens, qui vous ont certainement séduites aussi, son phrasé, culture classique aussi peut-être.
Ah bah ouais, il s'en revendiquait, et il revendiquait, il en a même fait une chanson, son affinité avec les ménestrels, les troubadours. Il y a une chanson où il dit « Je suis foutrement moyenâgeux ». Et c'est clair qu'il a des références classiques hyper solides et que personnellement, il m'apprend encore un tas de trucs sur bien des chansons qu'on veut reprendre donc de manière plus sérieuse que ce que je faisais jusqu'à présent où je chantais juste dans la rue, dans mon coin. Et là, si je m'attache encore plus à comprendre quand même ce que j'interprète, et sur notamment les différents dieux grecs.
Ah oui, la mythologie.
Oh là là.
C'est ma phrase préférée de tout Brassens, c'est celle sur le vin là avec Tantale. Tu peux me la citer, s'il te plaît?
Jadis aux enfers, certes il a souffert Tantale, quand l'eau refusa d'arroser ses amygdales. Être assoiffé d'eau, c'est triste, mais il faut bien dire que l'être de vin, c'est encore 20 fois pire.
Ouais, c'est pas beau ça. Ça parle aux alcooliques et aux fans de mythologie, je sais pas, c'est quand même...
Et puis il y a Ulysse aussi.
Oui, il y a Ulysse. Heureux qui comme Ulysse.
Alors, Heureux qui comme Ulysse, c'est une chanson, c'est un peu une exception parce que c'est une des rares qu'il a ni écrite pour le texte, ni écrite pour la musique. Qu'il a seulement interprété pour les besoins du film du même nom, Heureux qui comme Ulysse. Il a beaucoup mis en musique des poètes qu'il aimait, mais plus rarement, il a chanté des œuvres qui étaient écrites entièrement par d'autres. C'est le cas pour Heureux qui comme Ulysse. Mais d'ailleurs, elle dénote aussi par son orchestration, parce qu'il y a les violons derrière et tout ça.
Et Diogène, est-ce qu'il y a eu une inspiration par rapport à Diogène dans sa manière d'affirmer, de piquer aussi?
Je sais pas, Diogène c'est l'histoire du gars qui est dans son tonneau, c'est ça? Et qui chasse l'empereur ou le je sais plus qui en lui disant « tu me caches mon soleil, c'est tout ce que j'ai besoin ». Tu connais cette histoire, non?
Oui, c'est Alexandre le Grand.
Oui, c'est Alexandre le Grand qui vient voir Diogène et qui lui dit « qu'est-ce que tu as, de quoi tu as besoin ?»« Bah, que tu t'écartes, tu me caches mon soleil ». Et il vit dans un tonneau, le gars. Je sais pas si Brassens, il faudrait lui demander. Tu lui demandes, Hervé?
Dans ses textes, vous ne l'avez pas trouvé.
La référence à Diogène, non. Non, je pense pas.
Ça veut pas dire qu'il y est pas. Hein. Il y en a tellement, j'en découvre encore.
Ouais.
Il y a environ 250 chansons, Brassens.
Tout à l'heure, vous disiez que vous interprétiez certains morceaux avec l'archer. Est-ce que, par exemple, serait-il possible d'en faire un maintenant?
Bah, au moins...
Bon, ça va changer les plans, mais...
Ouais, bah oui.
Bon, tu veux faire quoi?
Eh ben, un bout des passantes.
Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime. Pendant quelques instants secrets, à celles qu'on connaît à peine, qu'un destin différent entraîne et qu'on ne retrouve jamais, à celle qu'on voit apparaître une seconde à sa fenêtre et qui presque s'évanouit, mais dont la svelte silhouette est si gracieuse et fluette qu'on en demeure épanoui. À la compagne de voyage dont les yeux charmants paysages font pas le chemin qu'on est seul peut-être à comprendre et qu'on laisse pourtant descendre sans avoir effleuré la main, à celles qui sont déjà prises et qui, vivant des heures grises près d'un être trop différent, vous ont inutile folie laissé voir la mélancolie d'un avenir désespérant. Chères images aperçues, espérance d'un jour déçu, vous serez dans l'oubli demain. Pour peu que le bonheur survienne, il est rare qu'on se souvienne des épisodes du chemin. Mais si l'on a manqué sa vie, on songe avec un peu d'envie à tous ces bonheurs entrevus, aux baisers qu'on n'osa pas prendre, aux cœurs qui doivent nous attendre, aux yeux qu'on n'a jamais revus. Alors, au soir de lassitude, tout en peuplant sa solitude, des fantômes du souvenir, on pleure les lèvres absentes de toutes ces belles passantes que l'on n'a pas su retenir.
Nicolas et Hervé, merci. Brassens nécessite forcément d'humilité pour l'interpréter.
Il me semble. C'est un travail du quotidien. Petite précision quand même, c'est pas un poème de lui ça, hein. C'est un poème d'Antoine Paul. Important de préciser.
Mais je vous voyais jouer et vous êtes très concentré. C'est de la dentelle quand même.
Ah, ça.
Celle-là, oui.
Le petit écart n'est pas toléré.
Un peu sur des œufs, mais.
Bah, difficilement.
Ouais. Puis même, au-delà de, c'est une concentration qui va au-delà de se tromper. On peut se tromper, c'est ouais, pas c'est très ça. Grave. C'est surtout d'y croire, en fait. Parce que ce qu'il dit, c'est beau, enfin, je trouve. Mais du coup. C'est dur de... On pourrait pas la jouer trois fois d'affilée, je crois. Parce que, enfin, peut-être que si, mais... Après, c'est dur parce qu'il faut être dedans émotionnellement. Il faut se mettre dedans.
C'est ça. Mm. Ah. Au-delà de l'aspect technique, on va dire, de dire le bon mot au bon moment, avoir la note au bon moment. Brassens, c'est avant tout du texte. Et il le disait lui-même. Enfin, c'est de l'orfèvrerie à tous les étages, je radote, mais il y a dans un des interviews où il parle de son métier d'auteur de chansons et de chansonnier vraiment. Il dit que ça doit être vraiment comme au cinéma. Si le cadrage ou la beauté de l'image, elle prend le pas sur l'histoire, ça marche plus. Il faut que ce soit d'abord le texte et derrière la musique. Et c'est aussi pour ça que dans les instruments, c'est toujours les mêmes. C'est guitare, contrebasse. Et assez rapidement, il y a eu une deuxième guitare pour les petites notes, pour les notes solo. Mais il disait aussi avec beaucoup d'humour, si c'est comme ça pour mes chansons, c'est parce que on a rarement un orchestre dans son placard quand on veut chanter une chanson à un copain.
Oui, en même temps, il disait aussi que si on ne remarque pas la musique, c'est qu'elle est réussie.
Voilà.
Parce que la musique, elle est importante, je pense. Ses mélodies sont importantes.
Ah bah oui.
Elles ne sont pas simples, en plus, à chanter. Et du coup, c'est pas si... Il ne les prend pas à la légère, la musique, en fait. Il fait juste en sorte qu'elle soit suffisamment discrète, je crois. Enfin... Mais c'est pour ça que c'est très précis, parce que c'est pas rien la musique.
C'est là son génie, c'est qu'il le prend pas à la légère, mais il faut que ce soit léger. Et en seconde écoute. Et c'est ce qui fait que, personnellement, je ne me lasse pas d'écouter Brassens et ses enregistrements. Parce que, une fois qu'on connaît le texte, il y a toujours des subtilités dans sa manière d'interpréter, ne serait-ce que dans sa manière d'interpréter. Sur une chanson, c'est rare, ça arrive, mais c'est rare qu'il garde à tous les couplets la même mélodie. C'était un improvisateur de talent. Donc, il a toujours des petites variations de thème qui font la différence. Et c'est ce qui fait aussi que c'est super difficile de reprendre Brassens sans que ce soit plan-plan. Parce que si on se contente juste de la mélodie telle qu'elle a été écrite... par lui ou repiqué par d'autres, il n'y a pas le compte du tout musicalement. Pas du tout, du tout, du tout. Parce qu'il manque la richesse de l'improvisation. Donc ça, c'est un travail que je fais personnellement et auquel je suis attaché de faire des petites variations mélodiques. Pas forcément celles qu'il a faites. Quand elles sont particulièrement intéressantes, ces variations, eh ben, j'hésite pas. À m'en inspirer.
Avez-vous un site pour ce trio Au Bois de nos Cœurs ?
Oui. Oui, un site du même nom. www.auboisdenoscoeurs.fr. Au Bois de nos Cœurs, c'est pas le hautbois à l'instrument, c'est en hommage à la chanson. Au Bois de mon Cœur, en fait, le nom du trio, il est venu de là. C'est de dire, bon, bah, on est trois amoureux de Brassens. Au bois oui, de nos cœurs,
et bah, de mon cœur, la chanson, Brassens. Il parle de l'amitié, il parle des amis qui viennent ça. L'aider tout le temps. Donc on se dit, bah voilà, on est des copains, on fait un truc.
Et donc le site internet auboisdenoscoeurs.fr, tout attaché, évidemment pas l'apostrophe, DNOS Voilà.
Et Facebook, c'est pareil ?
Et Facebook, il y a une page Facebook au bois de nos cœurs aussi.
Sur laquelle Hervé, qui est un spécialiste pour dénicher des pépites, publie toutes les semaines des interviews ou des chansons rares ou des rares documents sur Brassens.
Ou des très connus, mais qu'on ne se lasse pas d'aimer.
Voilà. Donc, ça, c'est chouette. Et puis, sur le site, il y a, si jamais il y a des professionnels du spectacle dans la salle, je m'adresse à vous. Mais sur le site, il y a un teaser du spectacle qu'on avait joué. On a joué deux fois dans un théâtre à Villefranche cet hiver.
Oui.
Donc, il y a eu un petit teaser qui a été fait, son et images.
Son et photos, ouais. Hein. Son,
voilà.
Son et dépôt.
Qui, voilà. Est-ce qu'il y a les chansons qu'on a enregistrées ?
Oui, il y a deux chansons qu'on a enregistrées avec l'ami Joseph qui est absent.
Voilà, donc il y a déjà quelques infos sur le spectacle. Voilà.
Mm-hmm.
Ce soir, vous serez à peine le sec, hein, c'est
oui.
ça ? Et puis demain, donc au Café des Lys, à partir de quelle heure ?
19h.
Ouais.
Pour les deux soirées ?
Oui.
Ouais, c'est ça.
Parce que dans les deux cas, c'est apéro. Repas,
apéro, ensuite
nous,
repas
joue,
et puis concert.
On
donc le repas, il est pas obligatoire pour demain au Café des Lys. Mais par contre, pour ce soir, il faut absolument réserver. Il faut appeler, vous trouverez le numéro soit sur le Facebook au Bois de nos cœurs parce qu'il y a l'affiche, soit directement sur le site Le Domanial. C'est l'auberge, le nom de l'auberge.
En gros, vous avez 2 heures.
Voilà.
Pour réserver et venir.
C'est ça.
Tant de trajets compris.
Alors, est-ce qu'on va avoir le temps ? Est-ce que ça vous dirait un troisième et dernier morceau qui termine
l'émission ?
Allez,
ouais. Absolument. Ouais.
Et on se dit au revoir maintenant, alors.
Eh ben,
et oui.
Merci beaucoup.
Bonne merci soirée. Beaucoup, Yves.
Elle n'a pas encore de plume, la flèche qui doit percer son flanc. Et dans son cœur, rien ne s'allume quand elle cède à ses galants. Elle se rit bien des gondoles, des fleurs bleues, des galants discours, des Vénus de la vieille école, celles qui font l'amour par amour. Des Vénus de la vieille école, celles qui font l'amour par amour. N'allez pas croire davantage que le démon brûle son corps. Il s'arrête au premier étage, son 7e ciel et encore. Elle n'est jamais langoureuse, passer par le pont des soupirs et voit comme des bêtes curieuses celles qui font l'amour par plaisir. Et voit comme des bêtes curieuses celles qui font l'amour par plaisir. Croyez pas qu'elle soit à vendre quand on l'a mise sur le dos. On n'est pas tenu de se fendre d'un somptueux petit cadeau. Avant d'aller en bacchanal, elle présente pas un devis. Elle n'a rien de ces belles vénales, celles qui font l'amour par profit. Elle n'a rien de ces belles vénales, celles qui font l'amour par profit. Mais alors, pourquoi cède-t-elle sans cœur, sans lucre, sans plaisir ? Si l'amour vaut pas la chandelle, pourquoi le joue-t-elle à loisir ? Si quiconque peut sans embâge l'aider à dégrafer sa robe, c'est parce qu'elle veut être à la page que c'est la mode et qu'elle est snob. C'est parce qu'elle veut être à la page que c'est la mode et qu'elle est snob. Méchange coutumes et filles, un jour peut-être en son sein nu, va se planter pour toute la vie une petite flèche perdue. On ne verra plus qu'elle en gondole, elle ira jouer à son tour. les Vénus de la vieille école, celles qui font l'amour par amour. Les Vénus de la vieille école, celles qui font l'amour par amour.